Chapitre 19. 3 heures plus tard, Hugo a passé l'ensemble des examens, effectué tous les prélèvements demandés et dîné seul dans la salle à manger. Il est assis dans la salle de jour, les yeux fixés sur son téléphone, quand Lars Grint entre et lui fait signe de le suivre.
« Je me suis dit que cette fois-ci, tu pourrais avoir la suite, » dit Lars, tandis qu'il traverse le couloir.
« Tu y as déjà logé, non ?»«
Une fois. »
Avec qui je vais l'appart...
Non! Tu l'auras pour toi tout seul, le coupe Lars.
Super, merci, soupire Hugo avec un sourire soulagé.
Mais il faut que je te demande une chose, dit Lars. S'il te plaît, n'entre pas dans la deuxième chambre. C'est important. N'ouvre même pas la porte. C'est lié à un projet de recherche indépendant.
Ok. Le docteur s'arrête devant la porte de la suite.
Je rentre chez moi, mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit.
Bonne nuit, dit Hugo.
Il entre dans le hall de la suite, plongé dans l'obscurité, et appuie par mégarde sur le bouton de verrouillage avant de trouver l'interrupteur du plafonnier et d'allumer. Un léger déclic retentit lorsque la porte se verrouille. Il avance dans le couloir jusqu'à sa chambre, pose son sac à dos sur le lit, puis jette un œil au salon. Les rideaux gris sont tirés. Un plaid couleur lit de vin est soigneusement plié sur le canapé. Une coupe de fruits avec des pommes rouges trône sur la table basse. Un écran plat est fixé au mur et une bibliothèque éclairée, lui derrière des portes vitrées. Une angoisse sourde lui noue l'estomac. Il n'a pas envie d'être ici. Son somnambulisme lui a déjà volé trop d'années. Tout ce qu'il veut, c'est s'installer avec Olga, partir au Canada et retrouver sa mère. Il sait que si on ouvre les rideaux de la suite, on ne voit qu'un papier peint représentant une prairie suédoise. La lumière artificielle de la pièce varie au rythme du jour grâce à une horloge astronomique. Hugo entre dans la cuisine où se trouve une petite table rabattable, 2 chaises, un gris peint avec minuteur et des couteaux non tranchants. Quand il était enfant, l'attention que Lars lui portait lui semblait touchante, parfois même comique. Depuis qu'il a déménagé à Uppsala, Hugo le voit plutôt comme un parent trop désireux de maintenir le contact. Il retourne dans l'entrée, passe devant la salle de bain, puis s'arrête devant la porte close de la deuxième chambre. Il ne sait pas pourquoi il est venu là. Lars lui a pourtant dit de ne pas l'ouvrir, mais il ressent malgré tout le besoin d'y jeter un œil. Dans le bois verni de la porte, quelqu'un a gravé une flèche pointant vers le sol. Hugo tend la main. La poignée n'est pas verrouillée. Il la baisse, ouvre lentement et scrute l'obscurité. Une bouffée d'air plus frais s'en échappe, chargée d'une odeur de textile et de poussière. Il cligne des yeux en attendant que ses pupilles s'adaptent. Peu à peu, la pièce se révèle à lui. La chambre est identique à la sienne, exactement comme dans son souvenir. Quelque chose est posé au sol, à environ 3 mètres du seuil. On dirait une longue rangée de petits cailloux. Il pose ses mains contre les montants de la porte, se penche pour mieux voir et réalise qu'il s'agit de coquilles de pistache. Quelqu'un les a soigneusement disposées en une ligne parfaite qui traverse la pièce depuis le mur jusqu'à l'armoire. Parcouru par un frisson, Hugo recule d'un pas et songe à appeler Lars pour lui dire qu'il a ouvert la porte par erreur. Alors qu'il tourne son regard vers l'armoire, il lui semble voir quelque chose bouger derrière les fentes de la porte. Un claquement sec retentit. D'une main tremblante, il saisit la poignée et referme doucement la porte. Le bruit résonne à nouveau. Il se précipite dans l'entrée, appuie sur le bouton de déverrouillage et ouvre la porte. Il soupire de soulagement en voyant Rakia dans le couloir. Elle a 50 ans et est originaire de Tunisie. Elle a des cheveux mi-longs, porte des lunettes teintées, beaucoup de colle autour des yeux et un rouge à lèvres rouge vif. Elle est en train de pousser une table roulante remplie d'électrodes.
« Rakia !» dit Hugo avec un sourire. « Entre, entre !»«
Je viens brancher les capteurs !» dit-elle d'un ton neutre.
« Je me demandais justement quand tu passerais. »
Elle ne répond pas, le suit simplement jusqu'à la chambre, puis bloque les petites roues de la table du bout du pied.
« J'ai examiné ton état général et tout semble normal, » dit-elle en évitant son regard.
« Ok. »
dit Hugo en s'asseyant au bord du lit.
Tu as juste un taux d'azote un peu élevé, mais on va suivre ça. Ça ne devrait rien affecter pour autant.
Et toi, ça va ?
Merci de demander.
Oui, ça va,
répond-elle brièvement.
Rakia connecte 10 capteurs pour mesurer son activité cérébrale, 6 sur son thorax pour surveiller le cœur, 2 pour enregistrer les mouvements oculaires, 4 pour détecter les tensions musculaires et les mouvements des jambes. Quand elle part, un déclic signale le verrouillage automatique de la porte. Hugo se lève, les bandes adhésives des capteurs tirent légèrement sur sa peau lorsqu'il bouge. Bien qu'il ne se sente pas réellement fatigué, il saisit sa trousse de toilette et se rend dans la salle de bain pour se laver le visage et se brosser les dents. Puis il prend un verre d'eau dans la cuisine avant de retourner dans sa chambre. Il pose son verre sur sa table de nuit et s'assied sur son lit, sous l'éclairage chaleureux d'une lampe de lecture, pour écrire un message.
« Si je me mets à marcher jusqu'au Canada en dormant, on économisera au moins le billet. »
Olga répond aussitôt « Ah ah !» Il voit que son père lui a aussi écrit plusieurs messages, mais Olga l'appelle, il n'a pas le temps de les lire.
« Je t'aiderai si tu n'arrives pas à réunir suffisamment d'argent, » dit-elle.
« Si mes notes sont correctes ce trimestre, je vais bosser le week-end chez Starbucks, histoire de me faire un peu de fric. »
Olga rit, surprise.
« Sérieusement, Hugo ? Te faire du fric ?
Quoi ?
Tu es juste tellement suédois. Tu es riche, tu vis bien. Tu vas dans une bonne école. »
« Je suis démasqué, » sourit-il.
« Oui. Alors autant avouer que je vais ravaler ma fierté et demander à mon père.
Ça fait mal, hein ? »
dit-elle.
« Il a mis de l'argent de côté au cas où je voudrais étudier à l'étranger. Je n'ai aucune idée de combien. Il n'y connaît absolument rien en gestion d'argent. Parfois il achète des actions, parfois de la crypto-monnaie. Il a de l'or dans son bureau, des dollars et des euros. La semaine dernière, il était sur le point d'acheter une forêt près de Yèvle.
Tu comptes lui dire que tu veux essayer de retrouver ta mère ?
Autant lui dire la vérité.
Quoi ?
Des grésillements intermittents se font entendre dans le téléphone.
Quand est-ce que tu reviens ? Je m'ennuie déjà de toi, dit-elle.
Lars veut me garder ici une semaine, mais je vais essayer de rentrer plus tôt.
Je trouve...
L'appel est interrompu et laisse place au silence. Hugo perçoit le ronronnement léger d'une ventilation, suivi par ce qui ressemble à des aboiements à travers les murs. Aussitôt, Olga le rappelle.
Ça coupe, dit-il.
Tu m'entends maintenant ?
Oui. Je réfléchis à ce que tu as dit sur notre voyage, dit Hugo,
que même si on ne retrouve pas ma mère, au moins j'aurais essayé.
Je crois en ça. On ne peut pas juste rester là à attendre dans son coin.
Au fait, j'ai reçu une prime que j'ai mise sur le compte.
Faut pas que tu fasses ça avant que j'aie rattrapé mon retard, dit-il.
Arrête, on s'en fout. Je fais les choses à ma façon. Toi, tu as ton père, moi j'ai mon travail.
Le téléphone grésille légèrement avant qu'Olga ne reprenne avec une voix qui paraît soudain plus proche.
« Dis, tu peux recevoir des visites à la clinique ? » demande-t-elle avec un petit sourire dans la voix.
« Avec toutes ces électrodes plutôt sexy, » plaisante-t-il.
« Oh, ça, j'en suis sûr. »
Le réseau coupe de nouveau. Quelques secondes plus tard, un message arrive.
« Bonne nuit, je t'aime, rêve de moi. » Suivi de 3 cœurs rouges.
Hugo pose son téléphone à côté du verre d'eau et sent ses yeux picoter. Il se dit qu'il est peut-être fatigué après tout, et éteint la lampe. La faible lumière de la veilleuse ambrée apparaît dans l'obscurité, accompagnée des minuscules diodes lumineuses des caméras. Les premières nuits sont toujours étranges. Essayer de s'endormir avec tous ces capteurs sur le corps et sous une surveillance constante n'est pas simple. Il ferme les yeux et songe qu'il n'a pas rencontré les autres patients. Mais il a entendu une voix aiguë et monotone dans le couloir pendant qu'il dînait. Probablement le garçon dont Beau parlait. Hugo réfléchit au comportement distant et presque froid de Rakia tout à l'heure. Peut-être s'était-il juste imaginé qu'ils avaient une connexion spéciale
lorsqu'il était plus jeune et qu'il avait désespérément besoin d'une mère. Il reste immobile, écoute les petits bruits secs des caméras et des capteurs de mouvement, puis il imagine quelqu'un en train de déposer des coquilles de pistaches en ligne droite sur le sol. Il est sur le point de s'endormir lorsque quelque chose le réveille brusquement. D'abord, il ne sait pas ce que c'est. Son cœur bat si fort qu'il résonne dans ses tympans. C'est un cri. Le hurlement terrifiant d'une femme perce les murs comme si elle se tenait dans l'obscurité de sa chambre, au pied du lit.